le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Èvre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dense.
Disons qu'avant la Révolution, on comptait 3 chapelles dans la commune.
Bonjour à tous, bienvenue dans Emmenez-moi. Emmenez-moi un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'on est au collège de Mont. On sait qui ? On sait Naïs à la technique, Mathis et Flavien de l'atelier radio. Et on reçoit Léandre Pourcelot. Bonjour, monsieur Pourcelot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ça nous fait plaisir. On a fait une autre émission juste avant avec vous qu'on vous invite, vous auditeurs, à retrouver sur notre site www.la-rage.fr ou sur le 97.4. Dans cette émission, on revenait sur la riche carrière en matière de recherche médicale, notamment auprès de la circulation sanguine des astronautes. Enfin, voilà, c'est quand même pas anodin. Des travaux de recherche de Léandre Pourcelot, l'index de Pourcelot, de plein de choses comme ça intéressantes à retrouver sur notre site internet directement. Tout autre chose, après cette riche carrière médicale, vous avez peu avant votre retraite découvert un peu par hasard les carnets de votre père poilu lors de la guerre 14-18. Depuis, vous donnez des conférences, vous les avez travaillés, ces carnets, ce carnet, vous l'avez parcouru et vous le faites vivre maintenant lors de conférences. Déjà, comment l'avez-vous découvert et puis pourquoi le faire vivre finalement ?
Bien, j'ai découvert un peu par hasard l'année passée dans les documents de famille. Et comme on parlait du centenaire de la guerre de 14, je me suis dit que peut-être dans ces documents anciens, je retrouverais peut-être quelque chose émanant de mon père. Et c'est comme ça que par hasard, donc j'ai retrouvé ce petit calepin. C'est un calepin d'une centaine de pages, écrit très très fin,
oui.
qui a fallu d'ailleurs scanner et agrandir pour pouvoir le lire plus facilement. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis ensuite, j'ai réécrit en face à face, je retapais à la machine des documents, le document lui-même. Façon à faire une lecture plus simple et plus rapide.
Mais il est étonnamment propre et en bon état.
Il est étonnamment propre puisqu'il n'a pas été ouvert depuis 90 ans, je ne sais pas. Enfin bon, donc, et on savait vaguement qu'il avait dû écrire quelque chose, notre père, mais comme on le voyait, qu'on ne farfouillait pas dans ses affaires, c'est resté comme ça, très proprement caché et secret, si je puis dire. Et je pense que pour lui, c'est important puisque ça a permis certainement de pouvoir répondre à des questions qu'il ne voulait pas entendre, qui était comment vous en êtes sorti, puisque pratiquement d'une compagnie dans laquelle il était, ils n'étaient plus que 3 à la fin à survivre. Donc c'est un peu comme les gens qui reviennent des camps de concentration, qui n'osaient pas parler de ce qu'ils avaient vécu, puisque de toute façon, ils partaient du principe que personne ne les comprendrait, ne comprendrait comment ça pouvait se passer et comment ils avaient pu s'en sortir.
Ça restait donc un sujet qui n'était pas forcément abordé.
Absolument. Et donc là, on a au moins un document où tous les jours, il lit ce qui se passe. Oui. Il n'y a pas de larmoiement, on ne parle pas des morts, on ne parle pas des blessés, on parle simplement des faits, des bombardements, des attaques, du froid, des conditions de vie, mais sans plus.
Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, d'avoir ces réponses à vos questions des années plus tard ?
Ben c'est très stressant quand on. Surtout que moi, j'ai scanné et ensuite j'ai retapé en face à face le document.
Donc je vivais
dans l'étranger parce que je ne suis pas. Évidemment, je n'ai pas des capacités de frappe très rapide. Ouais. Et donc, je vivais avec lui dans les tranchées pendant plusieurs semaines, si je puis dire, au fur et à mesure que j'écrivais tout ce texte qui était facile à lire, mais qu'il fallait quand même retaper. Donc j'étais vraiment, tous les mots, je les pesais au fur et à mesure que je les écrivais. C'est assez émouvant. C'est pour ça que je me suis dit qu'après, il fallait absolument essayer de mettre ça en forme pour pouvoir le présenter à d'autres, puisque c'est assez exceptionnel d'avoir un document où vous avez tous les jours ce qui se passe,
oui, c'est,
jour après jour.
On va rappeler le contexte. Vous êtes doubiste, si je ne m'abuse. Vous êtes issu d'une famille de 10 enfants, d'un milieu plutôt rural. Votre père était agriculteur avant de.
On était paysan et bûcheron, hein, de toute façon. Ouais.
Comment votre père, justement, en est venu à quel âge déjà, à être enrôlé dans cette guerre? Et puis, combien de temps ça a duré?
Mais c'est quelqu'un qui avait une éducation assez poussée, poussée entre guillemets pour l'époque, puisqu'il avait son certificat d'études à 12 ans. Il a ensuite fait 2 ans de formation à l'agriculture, ce qui fait qu'à 14 ans, il était en état de gérer une ferme de gérer une forêt, de faire de la vigne, de gérer un troupeau d'animaux, etc. Donc c'était une formation de base très solide. Et puis il avait une écriture très très agréable et sans faute d'orthographe quasiment. Ce qui fait que quand il est parti au service militaire, il avait 18 ans, il était enrôlé à 18 ans, il n'est pas encore 19 ans. Et il est resté plus de pratiquement 4 ans et demi donc sous les drapeaux, entre 1916-15 et 1919.
Il avait une formation spécifique pour le maniement des armes où il était.
Non, pas du tout. Il était non. Dès qu'ils sont enrôlés, ouais. ils sont ensuite là. Il est parti au camp du Val d'Aon et à Besançon où il y a une formation qui est faite et ensuite il va être enrôlé définitivement dans le 122e régiment d'infanterie et se retrouver donc sur le front dans la Meuse au début et ensuite à Verdun et ensuite il a fait tout le front français de l'Alsace jusqu'aux Flandres.
Donc il a manifestement beaucoup bougé parce que bon il y a eu différentes phases dans cette guerre. Bien il y a eu certainement avoir des périodes d'enlisement, notamment la bataille de Verdun à laquelle il a participé. Vous qu'est-ce que vous retirez de l'état général des conditions de vie et de son état d'esprit visiblement quand même tourné vers l'optimisme puisque il s'apitoie pas sur son sort d'après ce que vous disiez en introduction. Mais sur l'hygiène de vie qu'on sait assez déplorable à cette période-là, qu'est-ce que vous retirez du carnet?
Alors ce qu'il faut savoir c'est que les soldats ne pouvaient pas rester plus de 10 à 15 jours en première ligne, puisque là, ils ne pouvaient pratiquement pas se laver, ils mangeaient ce qu'on pouvait leur amener, et ils étaient évidemment obligés de travailler quasiment de nuit, et le reste de la journée, de se planquer, entre guillemets, pour ne pas se faire tirer. Donc ce qui fait que c'est des conditions de vie assez difficiles. En plus, évidemment, l'hiver, vous imaginez ce que c'est que d'être dans la terre humide, avec un froid très important, avec des difficultés pour s'alimenter, puisque quelquefois, il dit que tout est tellement gelé qu'on ne peut pas manger. Donc ils sont obligés de réchauffer d'une façon ou d'une autre en se mettant le pain contre eux pour un peu réchauffer pour pouvoir le manger, ce qui est pas très facile. Donc voilà, donc il a vécu des situations très difficiles, mais en même temps c'était quelqu'un de très volontaire et qui était toujours partant pour une contre-attaque, pour essayer de s'en sortir, si je puis dire. Donc il n'était pas passif, il était plutôt actif. Et il a terminé sergent, donc ça montre qu'effectivement, et même quelquefois, on a refusé de lui proposer un grade parce qu'il était trop jeune à l'époque. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui était très dynamique, très, très volontaire.
On va faire une petite coupure musicale et puis on se retrouve après pour évoquer la suite.
What happened to them
at 27?
They're jamming in heaven.
27,
I left
it all,
drugs and dreams, and died early.
Now we feel forsaken, oh don't we? Jim, Janis, Amy,
27,
Brian, Robert, and Jimmy. Kurt, Alan and Rose
at 27.
Fame is a burden
at 27.
There were lost children
at 27.
They left the world, no last show, and died early. Now we feel forsaken, oh don't we? Jim, Janice, Amy,
27,
Brian, Robert and Jimmy
at 27,
Kurt, Alan and Rose
at 27,
at 27, at 27.
What happened to them
at 27?
They're jamming in heaven
at 27.
They left
it all,
drugs and dreams,
and died early. Now we feel forsaken, oh don't we? Jim, Janice, Amy,
27,
Brian, Robert, Kurt Allen and Rush.
At 27,
Jim Janis Emmy.
At 27,
Brian Robert and Jimmy.
At 27,
Kurt Allen and Rush.
At 27.
On est de retour avec Léandre Pourcelot dans Emmenez-moi, Emmenez-moi un petit peu spécial. On est au collège de Mont. Léandre Pourcelot est donc notre invité. On est ravis d'être avec lui. On parlait de l'hygiène de vie et des conditions lors de cette guerre, d'une façon assez générale. Je crois, Mathis, que tu avais une question pour
Oui, exact. Je voulais savoir, dans les tranchées, comment est-ce qu'il y avait une organisation particulière pour les tranchées? S'il y avait un tel lieu qui servait, par exemple, à dormir ou d'autres choses, est-ce que les tranchées étaient organisées ou c'était de simples couloirs où on faisait tout?
Alors, effectivement, elles étaient organisées du mieux possible. C'est-à-dire, en fait, non pas en ligne droite, mais en zigzag, de façon à ce que si on ne puisse pas se trouver dans l'alignement d'un tir. Donc on faisait des tranchées plutôt en zigzag. Et d'autre part, régulièrement, il y avait des abris qui étaient creusés, donc qui étaient plus ou moins profonds. On pouvait quelquefois abriter une quarantaine ou une centaine d'hommes dans des abris souterrains qui pouvaient descendre jusqu'à 20 ou 30 mètres de profondeur. Donc il y avait après une organisation à l'intérieur de ces abris souterrains où on pouvait avoir de l'électricité, on pouvait avoir des coins pour se reposer. Les Allemands avaient même installé des fois des aumôneries, donc on pouvait faire une messe, être baptisé, n'importe. Enfin bon, on avait tout ce qu'on voulait. Et puis en surface, donc, il y avait des parapets pour se protéger de l'adversaire. Donc il y avait une partie qui était en dépression, celle qui était très organisée, en dépression où la tête ne pouvait pas émerger. Puis ensuite, on pointait sur un parapet pour pouvoir tirer éventuellement si nécessaire, avec des buts pour se protéger. Donc le parapet n'était pas à un seul niveau, mais à plusieurs niveaux. Entre les niveaux, on pouvait avoir une visibilité et tirer. Voilà, donc c'était très organisé. Évidemment, quand on était obligé de creuser une nouvelle tranchée, ben, c'était n'importe quoi. Donc la terre retombait dès qu'il pleuvait. Enfin, c'était des conditions cauchemardesques, comme on dit, pour se déplacer, parce qu'il y avait des fois jusqu'à 40 cm d'eau dans les tranchées et rien pour les évacuer. Donc il fallait faire ça à la gamelle pour essayer de rejeter l'eau à côté. Donc des conditions de vie très compliquées. Et donc, ils ne pouvaient pas rester plus d'une dizaine de jours en première ligne. Ils repartaient à l'arrière et ils ne repartaient pas au même endroit après. Donc, il y avait des mouvements permanents. Il y avait une organisation à l'arrière qui était extrêmement performante pour faire en sorte qu'on leur amène déjà des provisions à la fois militaires au sens pour les tirs, donc des munitions au sens large. Et puis, en même temps, bah, évidemment, à manger pour pouvoir survivre dans les meilleures conditions possibles. Et donc après, évidemment, ils avaient des poux, ils avaient les rats qui venaient les grignoter tout ce qu'il y avait. Enfin, c'était des vies très très difficiles. Hein. Et ils appelaient ça les totos, d'ailleurs, les poux. Et donc quand ils repartent en arrière, à chaque fois, ils le signalent, on nettoie tout, on se nettoie de fond en comble, on nettoie les habits, et puis on repart avec des habits à peu près propres vers le front.
Quand ils n'étaient pas sur des actes de la vie quotidienne, si déplorables soient les conditions, ou qu'ils n'étaient pas en train de se battre, les rares temps de vie commune ou de loisirs qu'il pouvait y avoir, entre guillemets.
Alors le seul endroit...
Est-ce que c'est écrit dans le...
La seule fois où il raconte quelque chose qui était un peu du loisir, c'est des matchs de foot, parce qu'il faisait tellement froid, ils étaient dans les moins 10, et donc ils étaient dans des baraquements qui étaient tellement froids que la seule façon de se réchauffer, c'était d'aller faire un petit match dehors pour un petit peu se réchauffer. Quoi. Voilà, c'est le seul moment où il parle de... Mais déjà, ils étaient dans des baraquements, enfin pas loin, mais disons en arrière des tranchées. Mais autrement, non, on ne peut pas faire beaucoup de sport dans les tranchées. C'est sûr qu'en dehors de faire des pompes...
Et ces tranchées, elles étaient creusées comment simplement avec une pelle ou il y avait d'autres choses?
C'était fait à la main, oui, la plupart c'était fait à la main. Alors à la fin, certains avaient organisé des machines, une espèce de machine automatique pour creuser comme un petit peu. Vous avez déjà vu quand on fait des petites tranchées avec des systèmes à rouleaux, qui tourne et qui broie la terre. Voilà, c'était exceptionnel. Le reste du temps, c'était à la main. Et d'ailleurs, souvent, ils travaillaient de nuit sans arrêt. Il y a peu de nuits tranquilles. On dormait deux jours, si je puis dire. Et voilà.
Comment Non, vous avez une question, les gars? Vas-y.
Est-ce que votre père, il a été blessé pendant la guerre?
Oui, alors mon père a été blessé de deux façons différentes. D'une part avec les gaz, parce qu'il a été gazé plusieurs fois. Et même quelques fois, il est dans le cirage complètement. Et il est obligé de se requinquer avec un peu d'alcool, alcool de menthe souvent. Et puis également blessé à l'œil par un éclat de balle qu'il a donc à l'œil gauche. Et donc il est hospitalisé pour ça. Il a retiré des éclats d'œil dans l'œil. Mais il n'en a pas trop souffert puisqu'il avait une vision qui était un petit peu plus faible, enfin pas trop dégradée du côté, il était blessé.
Comment ça prend fin le carnet? Est-ce qu'il y a une espèce de synthèse de tout ça ou est-ce que ça se termine sur le dernier jour sur lequel il était mobilisé et on referme comme si rien n'était?
Oui, il a une phrase, je vais essayer de la retrouver rapidement, il dit simplement « enfin se termine en gros quatre années et demie de vie ». Je ne retrouve pas. Enfin, en gros, il dit simplement qu'il a perdu 4 ans et demi de sa vie de jeunesse dans les tranchées. Quoi. Et qu'enfin, ça s'arrête. Mais il n'a pas de... Il n'est pas triste. Il est,
ouais, ouais, je comprends bien. C'est étonnamment optimiste.
Heureusement, ça s'arrête.
Vous êtes né en 1940, donc au début du deuxième conflit mondial. Avez-vous, vous, des souvenirs?
Oui, parce que mon père a été dans la résistance donc, pendant la guerre de 40. Et avait été dénoncé à la Gestapo par des voisins. Ce qui fait que moi je me souviens de m'être baladé devant des mitraillettes dans la maison avec les Allemands derrière pour fouiller la maison de fond en comble à sa recherche. Heureusement, on habitait pas loin d'une forêt et chaque fois qu'on voyait un véhicule bizarre qui approchait, on signalait au père qui partait, qui disparaissait pendant une journée ou deux. Donc quand c'était vraiment chaud. Donc il a été effectivement il a été dans un réseau de résistance, ouais. Puisqu'on n'était pas loin de la frontière suisse et il y avait souvent des armes qui étaient parachutées ou des gens qu'il fallait essayer de faire passer en Suisse d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'était un peu ça le but. Et alors après, très curieusement, quand j'avais l'âge de 15 ans, j'ai eu un correspondant allemand et je suis parti à Nuremberg, donc chez mon correspondant allemand. Et à Nuremberg, à cette époque-là, parler français dans la rue, c'était chaud, comme on dit. Et c'était Raus, Franzose, donc dégage les Français. Mais bon, j'ai appris le bavarois de la rue, du style va te faire voir, vieux, etc. Donc je me suis intégré assez facilement dans la vie de Nuremberg. Mais le premier jour où je suis arrivé, son père m'a emmené directement sur le grand stade de Nuremberg. En m'expliquant, Hitler, là-haut, ouais. 300 000 personnes ou 200 000 personnes. Et puis, enfin, bref, puis après, on a visité la ville en me disant, voilà, la ville en reconstruction. Et puis des photos pour montrer la ville détruite après la guerre. C'était chaud, hein. on sentait qu'on n'était pas tout à fait encore tout à fait d'accord. Puis c'était l'occupation, encore en zone d'occupation militaire américaine. Donc il y avait un couvre-feu. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour mon père qui a accepté de me laisser partir en Allemagne. Et à l'époque, dans le village, on disait c'est avec quelques chances de retour parce que les autres, on les a jamais vus revenir d'Allemagne. Donc c'était parmi les premiers à partir en espérant qu'il va bien revenir. Quoi.
Malheureusement, il va falloir conclure. Deux petites questions avant ça. Vous, qu'est-ce que vous retirez comme principal fait marquant des carnets de votre père? Et puis tout simplement, où est-ce qu'on peut et quand on peut vous retrouver dans l'ordre de conférence?
Alors, ce que je retiens, c'est une grande tolérance, c'est-à-dire en fait, il ne manifeste pas une agressivité particulière vis-à-vis des Allemands. De temps en temps, quand c'est vraiment chaud, il parle des Boches, mais il n'y a jamais de remarques, négatives. C'est des malheureux gars qui se retrouvent face à face et qui sont là parce qu'on leur a dit qu'il fallait venir là et puis se tirer dessus, quoi. En gros, c'est ça. Et c'est un peu la conclusion que je tirerais de ce carnet, où c'est des faits qui sont présentés dans leur intégralité, mais sans plus.
Assez objectif, assez neutre. Voilà,
sans manifester d'animosité. Et puis les calepins, je peux peut-être vous donner, si vous avez un petit instant, je vais essayer de retrouver. Donc vous pouvez aller sur http www.stimiste.com. Après il y a /carnet.htm et vous allez sur le carnet de notes numéro 149. Vous aurez le carnet de notes directement de mon père qui est transcrit là.
D'accord.
Donc vous n'aurez pas de photo, vous n'avez pas de, c'est simplement le texte lui-même qui était
le texte scanné qui a été
retranscrit. Voilà.
D'accord.
Qui a été retapé d'ailleurs en fin de temps. Voilà. Donc je répète, www.stimiste.com/carnet au pluriel carnet.htm.
Entendu.
Carnet de notes numéro 149. Il y a plein de carnets là, c'est donc un stockage de plein d'informations. Numéro 149.
On n'a même pas donné son prénom.
Hein?
On n'a même pas donné son prénom.
Il s'appelle Paul. Paul Pourcelot.
Paul Pourcelot. Et ben, c'était son fils Léandre Pourcelot qu'on remercie beaucoup d'être venu au collège du Val de l'Indre en présence de Mathis et Flavien.
Et on a donné le nom de Paul Pourcelot à son petit-fils qui est né pratiquement un siècle, à mon petit-fils qui est né pratiquement un siècle plus tard.
La boucle est bouclée. Ben, merci beaucoup. Vous aurez peut-être l'occasion, c'est une rumeur, de revenir au collège du Val de l'Indre pour une conférence, quelle qu'elle soit. On ne doute pas de l'intérêt que les élèves y porteront. C'était Emmenez-moi hors série. On se retrouve très rapidement pour une prochaine émission. À bientôt.
Merci beaucoup.
Le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Èvre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dans ce type.
Disons qu'avant la Révolution, on comptait trois chapelles dans la commune.